Bien, bonsoir à tous et à chacun. Ce soir, nous recevons dans les salons Albert Mola, Frédéric Charpier pour son ouvrage « Officine, 30 ans de barbouzerie chiraquienne » publié au Seuil. Frédéric Charpier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste que, curieusement, on qualifie de journaliste d'investigation. Alors qu'à mon sens, tout journaliste, ce devrait être d'investigation, non d'une pipe. C'est quand même la moindre lettre de noblesse pour un journaliste. Vous êtes spécialisé dans le renseignement et vous avez chez ce même éditeur, Le Seuil, publié la CIA en France en 2008, Une histoire de fou, le roman noir de l'affaire Clearstream en 2009, L'économie, c'est la guerre, en 2013. Je salue tous nos auditeurs qui nous écoutent au travers du site mola.com et je vous rappelle que vous pouvez podcaster, réécouter cette conférence au moment où vous le souhaitez. Mesdames, messieurs, je vais vous dire, j'ai déjà lu beaucoup de livres dans ma vie, mais ce livre relève du polar. La réalité dépasse la fiction. J'ai dans ce domaine un peu d'habitude et je dois vous l'affirmer que vous avez ici un ouvrage particulièrement documenté et établi, ce qui est dans ce domaine assez rare. Frédéric Charpier, je ne voudrais pas vous porter la poisse, vous avez 59 ans.
Pas encore.
Comment se fait-il que vous soyez encore en vie ? Car on voit bien au travers de votre livre qu'il y a un général qui tombe de sa fenêtre, des gens qui se pendent, enfin on les trouve pendus, par qui on ne sait pas, des décès plus que suspects. Donc je vais vous dire, on peut avoir la trouille quand même. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et sur un volet qui a touché profondément notre région et l'univers politique bordelais, à savoir l'affaire Boulin. Vous posez la question sans ambiguïté, Chirac, commanditaire de la mort de Robert Boulin, point d'interrogation. Allons-y.
Bon, d'abord, bonsoir. J'ai 58 ans. Hein. À mon âge, c'est important.
Je suis désolé. Oui, oui, oui.
Un an, c'est bon. Je plaisante. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire Boulin. Je le dis très honnêtement. En revanche, j'ai côtoyé tous les spécialistes de l'affaire Boulin, y compris Florence Motte, qui est ici ce soir, pour écrire ce livre. Ce qui m'a frappé dans l'idée du livre général, qui était les officines, c'est-à-dire au service de l'ambition de Chirac, ce qui m'a frappé, c'est qu'au fil des années, l'évidence semblait être apportée, alors par les uns, par les autres, alors jusque récemment, où vous avez eu un film à la télévision, une fiction, où l'on voyait Chirac fumant une cigarette à côté du cadavre de Robert Boulin. Tout ça fait dans l'indifférence, si j'ose dire, quasi générale. C'est-à-dire que, bon, il n'y a jamais eu un mot, une reprise. Pasqua n'a rien dit, Chirac n'a rien dit, etc. Donc il semblait s'établir comme ça, comme un non-dit, que c'était comme ça que ça s'était passé. Moi, je n'en sais rien, pour être franc. Hein. Je suis là-dessus très honnête. Je n'ai pas enquêté comme Florence Motte ou Benoît Colombat sur ces histoires-là. En revanche, j'ai lu et à force de lire, on est quand même envahi par le doute. On se dit il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de pas normal. Et puis, j'ai rencontré des gens qui l'ont bien connu. Il y a des gens qui étaient même très proches de la famille Boulin et qui ont su très vite beaucoup de choses. Je pense à Jean-François Probst. Je peux le citer parce que j'ai discuté avec lui il y a pas longtemps de ça. Il aurait aimé venir ce soir ici, mais il ne pouvait pas. Lui, qui est quand même un homme bien placé, qui a entendu beaucoup de choses, qui a connu beaucoup de choses, quand je lui dis « toi », tu dirais aujourd'hui, à propos de l'affaire Robert Boulin, qu'il a été assassiné ? Eh bien, il me répond oui. Alors, évidemment, en disant ça, ce n'est pas une preuve. Mais si vous voulez ça ajouter au reste, s'ajouter aussi à l'indifférence du pouvoir, enfin, de l'ex-pouvoir chiraquien, par rapport à ces accusations, on finit par se dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose de vrai dans l'accusation ? Alors, moi, je pense qu'à ce niveau-là, je sais que bon, les années ont passé, que c'est très difficile de reprendre une enquête comme ça, mais je pense, malgré tout, j'ai fait un livre sur la police scientifique, donc je sais que c'est vrai qu'une fois qu'une enquête a été ratée, c'est très difficile de la reprendre.
Quand ça a mal débuté, ça débute mal.
Exactement. Donc je ne sais pas sous quelle forme il faudrait le faire. Commission d'enquête, réouverture d'une instruction, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer à éclaircir ça, parce que deux choses d'une, ou bien c'est faux, et il faut tordre le cou à cette vilaine calomnie. C'est ignoble d'accuser X, Y, Z d'avoir assassiné Robert Boulin. Ou c'est vrai, et il faut quand même que, même si la chose est amnistiée, que les coupables soient d'une certaine manière châtiés. On ne peut pas rester comme ça, indifférent face à un phénomène, à une accusation de ce genre. Donc, c'est pour ça que je narre dans le livre cette histoire. C'est pour ça que je mets aussi un point d'interrogation.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Je crois, et il y a quand même des invraisemblances absolument extraordinaires.
Alors après, j'ai apporté quelques petites choses, mais...
Les prélèvements, les bocaux qui disparaissent, les poumons d'un coup, on ne peut plus, on ne les retrouve plus, enfin, c'est quand même incroyable.
Alors moi, je vais vous raconter une histoire que je voulais mettre dans le livre, et puis je l'ai enlevé parce que ça compliquait un peu tout dans le récit. Moi, par contre, je connais bien l'affaire Doucet. Alors Doucet, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un pasteur homosexuel qui, au début des années 90, mariait entre des homosexuels et qui avait créé un petit centre à Paris où on prônait la tolérance pour tel ou tel travers sexuel des gens, etc. Et qui, l'homme avait, semble-t-il également, un travers de maître chanteur. Donc j'ai travaillé à une époque, j'ai même fait un livre d'ailleurs sur son assassinat, sur sa disparition, peut-être un assassinat. Assassinat étant une disparition préméditée. Et j'avais rencontré pendant mon enquête un médecin légiste qui s'occupait de l'identification de Doucet, parce qu'on avait retrouvé, au bout de plusieurs mois, en forêt de Rambouillet, pas loin de l'autre découverte, on avait découvert les restes du pasteur Doucet, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, pour l'identifier, on avait eu recours à l'examen de sa tête, de ses dents, etc. Et donc, j'avais rencontré l'odontologue de l'époque, qui s'appelait Evenot, et qui m'avait raconté, qui est mort, mais qui était un homme remarquable, et qui m'avait raconté l'histoire que je vais vous raconter, et que je crois, je l'ai raconté une fois sur RTL, mais c'est une histoire qui n'est pas connue, pourtant elle est intéressante par rapport à ce qu'on discute là. Un soir, il arrive à l'Institut médico-légal et il voit des gens qui étaient en train d'amener la tête de Doucet vers un crématorium. Ils étaient sur le point de l'incinérer. Lui, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Alors, c'était des hommes en robe blanche, etc. Alors, on nous a donné l'ordre d'eux, mais qui vous a donné l'ordre d'eux ? Bon. Lui s'empare de la tête de Doucet, et il me dit, à partir de ce jour-là, donc, il n'a jamais su qui vraiment avait donné l'ordre, bon. Mais il m'a dit, de ce jour, tous les soirs, je mettais la tête de Doucet dans un carton à chapeau, je la mettais dans la voiture, dans ma deux chevaux, je l'amenais chez moi, je le mettais dans mon réfrigérateur et je le ramenais le lendemain pour sauvegarder l'indice, qui était quand même un indice important. Donc, je veux dire par là, faire disparaître des preuves de cette nature, vous voyez, on a toujours eu l'idée. Voilà, donc, en ce qui concerne Boulin, évidemment, comme à peu près tout a disparu, je pense qu'aujourd'hui, il serait quasiment impossible de
reprendre à zéro le...
Impossible, je pense. Bon, mais je pense, honnêtement, ce serait impossible. Bon, même les photos, on m'a communiqué toutes sortes de photos pour quand j'ai travaillé sur ce... Même là, vous pouvez leur faire dire une chose et son contraire. Donc je pense, hélas, sur le plan purement classique de l'enquête, je pense que ce serait très difficile d'établir les circonstances de la mort. Parce que si vous voulez savoir s'il est mort dans l'eau, il faut effectivement avoir accès à ses poumons. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans les poumons, vous ne pouvez pas dire. C'est un peu l'affaire Grégory, c'est exactement pareil. Oui. Voilà, on est dans ce genre de truc, des enquêtes loupées, Vous ne pouvez rien leur faire dire. Et donc, ça donne toujours lieu à des contestations. Mais dans, celle de l'affaire Moulin, ce qui est quand même important, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde émet au moins un doute sérieux. J'ai même rencontré des officiers de gendarmerie qui étaient présents ce jour-là sur la scène de crime, comme on dit, qui n'avaient jamais parlé jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui sont quand même... Je ne dirais pas qu'ils penchent pour la thèse de l'assassinat, mais ils disent tous que ce n'est pas normal... et qu'on aurait dû ceci, qu'on aurait dû cela, et qu'ils ne mettraient pas leurs mains au feu.
Voilà, donc, mais il y avait déjà, dès le début, lutte entre la police et la gendarmerie.
Mais alors là...
Ça avait déjà chauffé à ce moment-là, tout au début.
Oui, oui, mais là, je pense que là aussi, peut-être que, bon, on a peut-être un peu exagéré. D'abord, la section de recherche de la gendarmerie de Versailles, que je la connais bien, j'ai beaucoup travaillé avec eux, enfin comme ça, dans des enquêtes, je les ai suivis... Bon. Bon, au début, ce n'était pas grand-chose. À l'époque de l'affaire Moulin, elle démarre. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Et il y a un principe, c'est que c'est celui qui avertit le premier, le parquet, qui a l'affaire.
C'est ce qu'ils disent, c'est... tout de suite, d'entrée.
Et là, si vous voulez, c'est les... Et là, les flics ont manœuvré pour l'avoir. Et ce qui fait que les gendarmes ont été dessaisis de manière légale.
Parlez-nous donc de la piste de pêcheur, parce que là, ça rentre. Parce que là, c'est quand même un personnage incroyable.
Et voilà, donc ça, c'est le personnage. Alors, il y a deux choses chez lui, parce que, bon, à partir des éléments, moi, j'ai renquêté sur le personnage, mais bon, milieu catch, les gens qui l'ont peut-être un peu croisé, qui en savent un peu plus. J'ai récupéré quelques notes aussi de police, bon, qui apportaient des éléments. Il y avait aussi ces interrogatoires là-bas au Luxembourg. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments... Bon, qui, malgré tout, on n'en dise pas plus. Le seul fait, c'est sa dénégation, puis les propos qu'il a tenus à Florence Mott. Voilà, et on en sait, grosso modo, on n'en sait pas beaucoup plus. Ce qu'on sait, c'est que c'était un homme violent, qu'il a quand même s'est retrouvé en prison au Luxembourg après avoir tenté d'assassiner l'inventeur. Ouais, c'est ça, le fabricant de pistolets, là, bon, qu'il est sorti de manière un peu miraculeuse. Là aussi, on l'a très vite libéré. C'est un homme qui semble couvert. Ça paraît indiscutable. C'est un homme qui avait des liens historiques avec, on va dire, toutes les organisations à caractère barbouzard qu'on connaît, voilà, le sac, les réseaux Focard, le ceci, le ça. C'était un homme de main, classique, violent. Bon, a-t-il participé ou non voilà, je sais qu'il a dit à Florence Mott que jamais il aurait assassiné un ministre de la République. Bon,
oui.
Mais qu'il avait été témoin. Voilà. Donc c'est pas lui, c'est un autre. Mais sauf qu'on court toujours après l'autre. Quoi. Je veux dire, c'est dans cette histoire, c'est ça qui peut paraître un peu déçu. Surtout qu'un jour, ils seront tous morts. Et là, évidemment, on aura du mal à remonter. Il y a ça aussi, le temps. Il n'y a pas que les indices qui disparaissent. Il y a aussi les témoins. Et, voilà, et éventuellement, les coupables. Chirac se sent mal. Mais si, par exemple, vraiment, il a quelque chose à se reprocher dans cette histoire... Je pense qu'on aurait dû quand même... Je sais pas, enfin là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. C'est l'accumulation d'accusations qui restent sans réaction.
Étonnant. Alors, dans le domaine des officines, on va quand même parler du sac. Parce que ça a quand même défrayé la chronique pendant un moment.
Ben, le sac, oui, mais ça, c'est une...
Alors, rappelez-nous, qu'est-ce que c'était le sac ?
Le sac, ça a été créé en 58. C'est le service d'action civique.
Au moins qu'on ait des informations de première main. Pas avec des idées derrière les fagots.
Non, mais le sac, si vous voulez, le sac a une histoire, on va dire, officielle, qui est quasiment publique, on va dire. C'est la version édulcorée, c'est les compagnons, ceux qui sont mis au service... du gaullisme, voilà. Bon, mais tout le monde, tous les membres du SAC n'appartenaient pas forcément au parti gaullisme. Enfin, plus de la moitié en faisait partie, quand même. Ce qui prouve qu'il y avait quand même un lien. Alors, c'est une sorte de service d'ordre, d'appendice, comme ça, policier, militaro-policier, qui se crée en 58. On va dire un petit peu sur les restes de l'ex-service d'ordre du RPF, le Rassemblement du peuple français, qui était le parti gaulliste de l'après-guerre. Parce que tout ça, on retrouve à peu près les mêmes personnages. Bon, c'est un peu la même idée. Donc, c'est un petit peu une sorte de police privée, compagnonique, parce que ils sont tous affiliés au gaullisme, à l'idéal gaulliste, etc. on retrouve un certain nombre de personnages à sa tête, à peu près toujours les mêmes pendant plusieurs années. Donc il va pas vraiment s'illustrer de manière très publique pendant les années 60, même s'il existe pendant cette époque-là. Mais c'est après, dans les années 70, où là on voit apparaître les miasmes, on pourrait dire, de cette officine barbouzarde, c'est-à-dire on voit des gens du sac pris dans des affaires d'assassinat, de vol, de prostitution, enfin on pourrait s'étendre.
Une dérive généralisée.
Ah mais total, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du sac, je ne veux pas accuser tous les membres du sac d'avoir été des voyous, des gangsters, parce que ce n'était pas le cas non plus d'ailleurs. Mais quand même, malgré tout, il y a une cohabitation qui semblait, puis il y a l'impunité, et puis bon, on retrouve ces pêcheurs, les gens à la pêcheur, c'est un organisme qui va regrouper pendant une dizaine d'années, voire plus, dans les années 70, ce genre de personnages, mais par paquet, parce que on est dans une autre époque, il y a mai 68, donc il faut aussi essayer de maintenir un peu l'ordre dans les facultés. Il y a les organisations gauchistes qui commencent à proliférer un peu partout. Donc comme on a des habitudes et des manies au sac, on va infiltrer ces groupes-là, on va les surveiller, on va les fliquer, comme on dit vulgairement. Et voilà. Et donc pendant ces années-là, le sac, ça va être à la fois des opérations contre des gens, contre des étudiants, contre les partis de gauche, il faut dire les choses comme elles sont quand même, et puis en même temps, d'une série de faits divers incroyable, parce que c'est quand même le parti qui faisait, enfin le groupuscule qui faisait en même temps les services d'ordre des candidats de politique de la droite, en particulier du mouvement gaulliste, mais pas seulement. Il donnait l'UDF de l'époque, Raymond Barre a eu à une époque des anges gardiens du sac, etc. Donc en fait, c'était la droite en général, le mouvement gaulliste en particulier. Alors donc vous avez, c'est quand même là aussi, on peut se dire comment se fait-il qu'il y ait eu une telle impunité pendant si longtemps. Ben, on le sait parce que la police et la justice avaient quelque part une mansuétude qui lui était imposée d'en haut. Voilà, et qu'on vivait à l'époque où, à une époque où ces gens-là, ces groupes-là avaient encore une utilité. Puis on arrive en 81, vous avez tous en mémoire l'affaire La Tuerie d'Auriol, qui est quand même là aussi un épisode extravagant. Vous avez des gens qui appartiennent à un mouvement qui colle les affiches d'un parti à l'époque, qui vont assassiner d'une manière abjecte toute une famille, soi-disant parce que l'homme qui était la cible ce jour-là, s'apprêtait à faire chanter le mouvement parce qu'il y avait une alternance politique, etc. Enfin, on arrivait à exterminer comme ça une famille, des enfants. Ça en dit long quand même sur l'état d'esprit et la nuisance de ces gens. Alors, le sac va être dissous, il y aura une commission d'enquête parlementaire. Il va se reconstituer.
Mais Chirac, toujours à défendre le sac.
Ah, toujours.
Toujours.
Alors ça, c'est quand même assez... D'abord, parce que le sac l'a soutenu, si j'ose dire, dès le départ aussi, puisqu'il est très présent en Corrèze dès son arrivée. Il fera toutes ses campagnes. D'ailleurs, Chirac va créer lui-même en Corrèze son propre petit gang, on va dire, policier, là-bas, des anciens, mais pas que policiers d'ailleurs, on sait anciens des militaires, un colonel, des machins. Je n'ai rien contre les colonels. Mais disons que lui, il se crée autour de lui une petite phalange en Corrèze qui lui sera très utile. Jusqu'au bout, à peu près jusqu'au début des années 2000, il aura ces gens-là à son service. Voilà, donc évidemment, c'est important de le souligner parce que au moment où quand même la France découvre ce que c'est que le sac à travers la tuerie d'Auriol, c'est l'homme qui va dire, cette parole que je rapporte dans le livre, quand même, que tout ça est une manipulation de la gauche. Vous voyez, c'est le sectarisme.
Rappelez-nous un peu Focard.
Alors Focard.
Parce que là, c'est quand même un personnage.
Alors Focard, c'est évidemment pour ceux qui, peut-être certains d'entre vous, se souviennent ou ont lu des choses sur Focard. Ouais, Focard, on le résume souvent comme ça. C'est vrai que c'est l'un des patrons quand même derrière de tous les réseaux, on va dire un peu barbouzard gaulliste. C'est surtout l'homme de la France-Afrique, évidemment. C'est l'homme des finances, très important, parce qu'on ne fait pas de politique sans argent. Et le mouvement gaulliste a toujours été un mouvement très riche. D'ailleurs, dès la libération, il y a déjà des affaires. Il y a, pour ceux qui s'intéressent ou qui se souviennent, pour ceux qui ont pu connaître, bon, il y a quand même l'affaire de ce chef des services secrets français qui va mettre planquer une partie des fonds de la DGER de l'époque à Londres et en Argentine pour faire, alors soi-disant en cas de percée des troupes soviétiques, mais en fait il s'agit de mettre un magot de côté pour la future action politique de Gaulle. Et en ce qui concerne la France-Afrique, c'est pareil, parce que Foccart déjà va créer tout un complexe de société.
Rappelez-nous, parce qu'aujourd'hui on dit « oui, on veut quitter la France-Afrique ». Rappelez-nous ce que c'était la France-Afrique.
Bon, la France-Afrique, c'est ce qui va se substituer à la France coloniale, à l'Afrique équatoriale française. C'est les mouvements d'indépendance à la fin des années 50. Eh bien, tous ces pays, qui, à part la Guinée de Sékou Touré, qui vont accéder à l'indépendance, ils vont être repris en main de manière, on va dire, plus discrète par des réseaux, une collaboration policière, notamment de la DST, qui va former tous les nouveaux États au
contre-espionnage. Et leur potentat.
Et leur potentat. Alors là, il y a la corruption qui vient s'ajouter derrière. On va fabriquer de nouveaux dirigeants. Toi, ancien sergent, tu vas devenir président de tel ou tel pays. Ça s'est passé comme ça, un peu à la tête du client. À part quelques-uns, bon, qui avaient quelque part une légitimité. Mais enfin, ça a été aussi fait un petit peu en termes de personnages qui pouvaient complaire au système qui était mis en place. Parce que si on n'était pas d'accord avec le système, on a vu au Cameroun ce que ça a donné. Là, ça a été quasiment un massacre de masse. Parce que derrière la France-Afrique, il n'y a pas que de l'argent. Il y a aussi du sang. Hein, il y a eu de véritables massacres. Quand je dis massacre, ce n'est même pas une manière de parler. C'est vrai. Ça se chiffrait par milliers et milliers de personnes tuées. Parce qu'ils s'opposaient à un nouveau régime. Donc c'est ça, la France-Afrique, c'est un substitut à notre empire colonial pour maintenir nos intérêts et puis en même temps tirer de ces richesses-là un moyen d'action et de financement pour le mouvement gaulliste et au-delà d'autres mouvements politiques comme la gauche. On l'a vu avec l'affaire Elf où chacun avait quand même au prorata sa part du magot. Mais il faut quand même dire l'essentiel, c'est que Foccart étant l'homme qui a quand même été l'homme totémique de tout ce système, c'est quand même lui qui, c'est quand même son camp qui a quand même le plus profité.
Intouchable.
Bah, Foccart,
De Gaulle a toujours protégé.
Foccart, il a été quasiment, oui, intouchable jusqu'au bout. Quand Chirac arrive à Matignon en 86, il le prend à Matignon avec lui. Hein. C'est que en 95.
Et il l'a toujours défendu.
Toujours. Mais c'est-à-dire que quelque part, c'est presque logique. Chirac, il défend ceux qui le protègent et ceux qui le financent. Vous savez, sans argent, il n'y a pas de campagne.
Chirac s'installe à l'Hôtel de Ville de Paris. Cabinet noir. Vous dites cabinet noir à l'Hôtel de Ville de Paris.
Et j'ajoute que tout ce qui est dans le livre n'a pas été démenti par qui que ce soit. Hein. Non, c'est important,
oui,
parce que des fois, on peut faire des choses, puis derrière, se faire contester par tout le monde.
Je ne pense pas, parce que sinon, vous auriez des procès sur le dos.
Oui, non, je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé à l'Hôtel de Ville, c'est hallucinant. Parce que là...
Ah non, mais il y a un catalogue de choses. Ah, je vais vous dire, j'en ai découvert. Et pourtant, j'en connaissais pas mal. Mais j'en ai découvert.
Oui, parce que... L'Hôtel de Ville, on pense toujours, bon, les frais de bouche, ce qui est déjà scandaleux, j'en conviens, mais enfin bon, les frais de bouche, on pense aussi les faux électeurs, c'est quand même scandaleux, mais enfin bon, mais c'est pas que ça.
C'est rien.
Quelque part, c'est rien. C'est peanuts comparé au système barbouzard qui a été mis en place. Et quand je dis barbouzard, c'est au sens propre du mot, parce qu'on a vu arriver à l'Hôtel de Ville, et j'aurais pu citer bien d'autres noms, toute une flopée de gens qui arrivaient des services spéciaux français, qui sont venus s'installer à l'Hôtel de Ville, ayant telle ou telle mission, des gens qui avaient des gens sérieux, qui avaient un certain pédigré, qui venaient soit du SDEC, soit d'autres services de renseignement, des gens bien d'ailleurs, d'un certain point de vue. Mais alors pourquoi tous se coagulaient-ils à l'intérieur de cet Hôtel de Ville, où on a fabriqué également des petites officines médiocres, là, où on écoutait les gens. Ils avaient mis en place un système à l'Hôtel de Ville qui leur permettait d'écouter tout le monde. Ils avaient des bretelles sur tout le monde. C'est quand même hallucinant. Il y avait un service d'enquête qui était le service de l'inspection générale de la ville de Paris qui est censé enquêter sur ce qui va mal. Mais dans le genre, pour que ça aille mieux, dans l'intérêt général. En fait, ça camoufle un autre service qui fabriquait que des rapports sur les uns, sur les autres, comment les tenir. Et Chirac était l'unique destinataire de tous les documents confidentiels qui lui étaient transmis par cette officine, on va appeler ça une officine hein, aussi. On peut se poser la question, pourquoi autant de barbouzes? Parce qu'il y a peut-être d'autres raisons. Est-ce qu'ils ont cru à l'époque, ça pourrait dégénérer, la gauche était arrivée au pouvoir, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait derrière, une crainte, une ambition, un truc factieux, je ne sais pas.
Le complot.
Ou alors se défendre, je ne sais pas, mais cette concentration, il y en avait trop, je ne sais pas, il y avait trop de barbouzes, pour que ce soit honnête, si j'ose dire. C'est qu'il y en avait trop, pour que ce soit simplement des histoires de flicage. En plus, il y a l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, qui est incroyable. Ah. Parce que là, par contre, j'ai mis le doigt sur un truc, parce que j'ai rencontré après d'autres personnes qui m'en ont rajouté là-dessus. Mmh. Là, j'ai mis le doigt sur un vrai truc. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert, même des élus parisiens, à qui j'ai posé la question, et m'ont dit « on n'est pas au courant », sur les transferts, entre guillemets, illégaux de fonds entre la ville de Paris et Nouméa, où là-bas, le RPR soutenait le parti local, le RPCR, avec la logistique de l'hôtel de ville, l'argent de l'hôtel de ville.
Qui ont réappliqué.
Et des gens qui sont venus travailler sur place, ils ont été nommés là-bas. Ben, là, je dis qu'on est dans quelque chose de...
Ce qui n'avait jamais été soulevé.
Pardon ?
Ça n'a jamais été soulevé.
Et puis alors, surtout, le détournement de fonds et de personnel... J'avoue que même des élus parisiens, quand je leur dis « Alors c'est quoi cette histoire? Mais de quoi tu parles ?»« Ah bon ?» J'étais étonné qu'eux-mêmes, qui pourtant aux manettes, n'aient même pas eu connaissance de ça.
On parle de Pasqua, parce que qui est quand même un personnage en couleur, venant de chez Ricard. Et,
une honorable
le
maison.
Petit jaune. Et Pasqua se met à disposition de Chirac.
Ouais. Pasqua en 76.
Avec des hauts et des bas.
Ouais. Ouais, Pasqua d'abord, c'est quelqu'un qui va essayer de toujours faire sa place, notamment dans les fameux réseaux Focard. Mais là, il est très mal reçu. Il est même.
Pas bien reçu.
Ah non, non. Il est même expulsé manu militari d'un hôtel où se prépare un congrès. Du mouvement il est boxé d'ailleurs, il va porter des lunettes pendant plusieurs jours derrière parce qu'il a deux cocards et voilà, donc là il est, donc c'est pas l'ami de Focard. Ça c'est clair que quand on le met en scène avec Focard, bon là il y a une erreur de casting. Tant que Focard est là, Pasqua il est en arrière-plan.
Mais rien.
Il est en arrière-plan, c'est Focard quand même le vrai boss aux côtés de Chirac. Et voilà, donc Pasqua, c'est l'allié, c'est lui en 81 qui va organiser toute l'opération « On appelle à voter Mitterrand », que je raconte là, mais qui avait déjà été raconté par un journaliste du quotidien de Paris. J'ajoute deux ou trois bricoles, mais c'est amusant de voir comment les socialistes et les pascoyens et les chiraciens vont s'entendre concrètement en 81 pour... fabriquer un faux appel, enfin un vrai appel à voter, un vrai appel à voter Mitterrand, qui sera diffusé par le fichier du RPR à tous les militants du RPR, financé, alors imprimé par l'imprimerie du RPR, mais financé par les socialistes, parce qu'il faut quand même que tout le monde apporte un peu ça. Et donc c'est une opération conjointe, on va dire, socialo-pascoyenne-chiraquienne, pour désinguer Giscard. Alors, je ne suis pas certain que ça ait eu beaucoup d'effet, mais enfin, bon, ça donne en tout cas l'ambiance générale. Il voulait que Giscard soit battu pour des tas de raisons, surtout parce que ça ouvrait le chemin
Il y avait de vieillesse depuis 1976, quand même.
Voilà, et donc Chirac, voilà, exactement. Et là, Chirac se voyait déjà... il se voyait d'ailleurs même lui réélu 3 mois après, parce qu'ils considéraient que ça ne durerait pas longtemps. Peut-être pour ça qu'ils avaient mis autant d'hommes... d'hommes, entre guillemets, des barbouzes à l'hôtel de ville. Peut-être qu'ils avaient pensé...
Ils pensaient que ça allait...
Je ne sais pas.
Mais enfin, donc, deux attaques quand même contre deux anciens premiers ministres, deux fois contre Raymond Barre. contre Balladur, et contre Balladur, pas mal. Hein.
Ah oui, c'est bon, Barre, bon, Barre, ils ont utilisé. Bon.
Ça n'a pas tellement bien marché.
Non, et puis surtout, c'était des choses qui étaient quand même assez connues, puis ça restait à un certain niveau, on va dire. Bon, c'était un peu l'histoire de son père, l'épouse de Barre, qui était d'origine hongroise, peut-être un agent soviétique, enfin, des choses comme ça. Ils avaient fabriqué une petite une plaquette importante quand même.
Oh, offensive, bon. Hein, plaquette.
Bon. Oui, mais enfin, vous avez un numéro du Grapouillot, qui est un journal que vous connaissez peut-être, bon, et qui reprenait à peu près tout, en rajoutant même. Donc, voilà, c'était méchant, c'était cruel, mais c'était pas aussi ignoble qu'avec Balladur.
Balladur, c'était pire.
Balladur, ils sont passés à des trucs bizarres. Je raconte dans le livre, parce que c'était pas connu. À l'époque, entre 93 et 95, le fils d'Édouard Balladur fait son service dans la coopération à Madagascar. Et il fréquente, bon, c'est un jeune mec, hein, le soir, il sort, il va dans les boîtes de nuit. Bon, tout honorablement, je veux dire, sans... Et là, et ça c'est une ex-barbouze qui me l'a raconté, là vous avez un type qui est des réseaux Pasqua en particulier, qui est là-bas et qui suit en permanence le fils Balladur, y compris la nuit, etc., au cas où, pour pouvoir éventuellement utiliser quelque chose contre lui. Mais le fils Balladur n'a pas prêté le flanc à ça, mais le fait est qu'ils étaient sur le point de, s'il y avait eu la moindre chose, de l'exploiter. Puis ils ont fait, comme vous le savez, cette fameuse campagne sur l'homosexualité de Balladur, avec son directeur de cabinet, qui relève là quand même.
Avec Bazir.
Oui,
l'histoire
avec Bazir. Nicolas Bazir, là c'est quand même assez...
Les tentatives d'accusation d'homosexualité de Balladur avec Bazir. Il faut quand même le faire.
Ils l'ont fait de 50 manières différentes. Ils ont publié des brûlots anonymes où ils ont raconté ça, enfin fait circuler ça. Bon, ils ont voilà. C'est bon là, ça atteint. C'est même le Patrick Sébastien, peut-être certains d'entre vous apprécient, bah, lui-même a relayé, qui est proche, comme chacun sait, proche de Chirac. Il a relayé lui-même ces histoires-là dans ses émissions à la télévision, en faisant des plaisanteries. Sur Balladur. Voilà. Donc il y a eu une campagne là-dessus.
Bien, alors à ce stade de la soirée, on va faire une pause. Enfin, une pause. Vous allez nous parler d'Yves Bertrand. Parce que, alors, Yves Bertrand, l'ancien patron des RG, qui parcourt l'ensemble de votre livre, ben, il va falloir quand même qu'on en parle. 2400 pages de carnet saisies dans sa cave. Pourquoi ils l'ont saisi, d'ailleurs ?
Ah ben ça, c'est l'affaire Clearstream. C'est compliqué. Si vous voulez, là, je demande Joker, parce que si je vous raconte ça, on va y passer du temps.
Racontez-nous d'abord qui est Yves Bertrand.
Alors, Yves Bertrand.
Parce que...
Non, mais je peux vous dire en deux mots comment, mais je vous dirai en deux mots. Yves Bertrand, bon, donc, c'est un fonctionnaire des renseignements généraux qui a fait toute sa carrière aux renseignements généraux. Il a commencé comme commissaire, hein, donc il a fait l'école des commissaires. Il a une carrière assez... ordinaire, c'était pas un policier extrêmement brillant. C'est pas moi qui parle. Hein. Moi, je l'ai connu, je l'ai rencontré souvent. C'est un homme avec qui j'avais des relations courtoises. C'était pas. Sans doute, il a essayé de m'assassiner deux ou trois fois, mais disons de manière courtoise, ce qui change avec les manières discourtoises. Bon, il était comme ça. Bon, j'avais des relations correctes avec lui. Bon, voilà. Mais ça m'a jamais empêché d'écrire tout ce que j'avais à écrire sur lui. Je croyais avoir été l'un des rares. Hein. Avoir toujours écrit sur lui des choses qui lui déplaisaient. Parce que, par contre, le reste de la presse a largement passé sous ses fourches codines, ce qui est invraisemblable. Et c'est là son génie. Parce que je pense que s'il a duré autant, au poste de directeur central, c'est grâce à cette nomenclature journalistique qu'il avait installée autour.
Il avait des relations absolument privilégiées. Alors, il soignait de toutes les façons.
Il recevait tout le monde. Il recevait, enfin tout le monde, les journalistes, les gens qui écrivaient, les gens qui pouvaient avoir un peu d'influence, les gens qui pouvaient aussi lui apporter des informations, parce que c'est quelqu'un qui débriefait. Il débriefait ses visiteurs.
Alors les carnets, alors, c'est une descente spéléologique dans la vie privée des gens. Hein.
Alors,
je peux vous dire, alors ce qu'il dit d'ailleurs, je vous coupe juste, vas-y. Si la République n'avait pas de concierge, elle s'écoulerait. Et d'un. Et d'une autre, le
c'est
cul
Bertrand qui parle, hein.
Fait partie de la vie. Si vous ne retenez pas le cul, vous ne vous intéressez à rien. un des grands principes de Bertrand. Oui, c'est quand même incroyable.
Mais c'est incroyable qu'il le dise publiquement, parce que ça, il l'a dit dans un livre.
C'est les guillemets, donc c'est ce qu'il dit.
Hein. Bon, il l'a dit à un moment donné où il était déjà sur le reculoir. Il était, c'est bon. Mais ce qu'il dit, au fond, quelque part, est un peu vrai. Parce que s'intéresser aux mœurs, tous les services de renseignement s'intéressent aux mœurs, tous. Non seulement ils s'intéressent, mais ils sont même capables de monter des opérations dont le but essentiel est de compromettre des gens. Or, très souvent, vous pouvez les compromettre avec de la drogue, des histoires d'argent, puis l'histoire de mœurs, c'est le béaba. J'avais un ami qui travaillait à la brigade du proxénétisme à Paris. Et puis, bon, il y avait des gens de province, pas de Bordeaux, rassurez-vous, qui montaient de temps en temps à Paris pour aller s'encanailler dans certains endroits parisiens un peu chauds et un peu particuliers. Et donc, ils étaient régulièrement pris dans des rafles. Bon, alors, vous aviez l'adjoint au maire, le responsable de la banque, le machin, enfin, les notables, bon, qui parfois étaient pris là-dedans. Et je disais à mon ami, il me dit, nous, on les laissait, bon, on n'en avait rien à faire. Il me dit, en revanche, on envoyait tous les PV aux RG locaux. Alors après, ce que ça devenait, moi, j'en sais rien, mais on peut imaginer, si vous êtes malveillant, ce que vous pouvez faire avec ce genre de documentation auprès de quelqu'un qui vit dans une petite communauté. Moi, je vis dans une petite ville aussi, je vis à Paris, mais aussi très souvent dans une petite ville, où on sait qu'on ne peut pas... on échappe difficilement au regard des autres. Donc, je veux dire par là, quand Bertrand dit ça, quelque part, bon, il le dit crûment à sa manière, c'était pas un homme très cultivé, c'est pas une flèche.
Mais malin.
Ah, malin, oui.
Malin, madré. Aussi.
Oui, et puis il avait réussi un truc. Bon, il a fait sa carrière, il a monté comme ça, je passe sur les différents épisodes, mais ce qu'il a consacré, c'est, si vous voulez, c'est son double jeu pendant la cohabitation 93-95. Ah, il a joué sur tous les tableaux et il a finalement peut-être soutenu au bon moment les Chiraciens. Bon, en utilisant peut-être des éléments qu'il connaissait en plus, bon, j'en sais rien. Enfin, le fait est que c'est cet aspect-là de cette période-là qui va l'emporter, donc il va être intronisé à la tête des renseignements généraux. Mais ce qui va surtout le faire durer, parce que c'est quelqu'un qui va, si vous voulez, il est arrivé sous la gauche. Il a été le directeur central de la cohabitation. Il sera le directeur central de Chirac, le premier. Il sera le directeur central de Jospin. Il sera, parce qu'ils vont essayer de le vider, mais alors là, ils n'y arriveront pas. Là, j'ai suivi ça de près, je le voyais régulièrement là-dessus. C'était très amusant de voir comment, avec quelle audace, honnêtement, de son bureau, c'est-à-dire... À 30 mètres en piqué comme ça sur le bureau du ministre de l'Intérieur, il orchestrait ses campagnes anti-Jospin. Parce que vous rentriez dans son bureau, la première chose, c'est vous connaissez la dernière, et puis vous sortez des trucs. Bon. Et donc après, il a survécu un petit peu sous Chirac lors de sa réélection. Et c'est lorsque Sarkozy est arrivé place Beauvau qu'il a finalement été désingué. Bon, parce qu'il y avait d'autres responsables des RG qui lui ont savonné la planche et qui avaient le bon contact avec Sarkozy. Et aussi, surtout, parce que dès ce moment-là, et ça je le raconte aussi dans le livre, il s'était mis à travailler sur Sarkozy. Bertrand, il avait mis ses petites équipes, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il couche, qu'est-ce qu'on peut trouver sur lui, c'est où le pognon, etc. Et tout ça, c'est vrai.
C'est vrai. Sarkozy a dit, c'est le mec, si je le rencontre, je le fends en deux.
Voilà. Ça, lorsqu'on a découvert les fameux carnets. Alors, les carnets, si vous voulez, c'est très simple. On les a trouvés à la fin de l'affaire Clearstream sur... c'est sans doute... les policiers ont été amenés là par quelqu'un d'autre dans le but exclusif de coincer Bertrand, parce qu'il le savait. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ce serait trop compliqué. Et donc, on a saisi ces 2400 pages de notes qui étaient dans des carnets qu'il avait cachés dans la litière des chats. Il mettait ça à la cave. Et donc, quand vous lisez ces trucs-là, vous avez... Bon, parfois, c'est fastidieux, c'est un peu ennuyeux. Il faut aussi comprendre de quoi il parle, parce que souvent, il fait allusion à des choses qui relèvent un peu quand même du microcosme. Donc, si vous n'êtes pas au parfum, vous ne comprenez pas. Et puis, surtout, il collationne tous les potins que les journalistes, en général, de préférence, viennent lui rapporter. Parce qu'il avait autour de lui une sorte de phalange de journalistes qui lui devaient à peu près tout. Parce que l'avantage de Bertrand, évidemment, c'est que pour eux, c'était du donnant-donnant. tu me donnes ça, je te donne ça. Et donc, quand vous êtes journaliste d'investigation dans un journal, vous avez intérêt à produire. Donc, si vous voulez produire, bah, il faut créer un lien, un ravitaillement particulier. Et Bertrand ravitaillait. Et donc, il a fait la carrière d'un certain nombre de journalistes. Et Bertrand avait autour de lui, on va dire, le gratin, entre guillemets, de l'investigation. C'est-à-dire, tous ceux qui sont présentés aujourd'hui comme des as de l'investigation doivent à peu près, la plupart d'entre eux, leur carrière à Bertrand.
Compte tenu du temps, on fait encore un peu Schuller-Maréchal. Et ensuite, on fait la bataille Sarkozy.
On fait ce que vous voulez.
Allez, on fait Schuller-Maréchal.
Ben, Schuller-Maréchal, vous vous souvenez, hein, c'est l'affaire Alphen. C'est le magistrat parisien dont le beau-père va prétendre qu'il peut influencer le cours de l'instruction et qui va se retrouver pris dans une manip qui consiste à le prendre en flagrant délit avec une mallette remplie d'un million de francs. Alors, comme il est, à l'époque, c'était des francs, comme il est le beau-père donc, d'Alphen, évidemment, Alphen ne pourrait plus instruire un dossier dans lequel son beau-père apparaît.
Qui tombe des nues, d'ailleurs.
Voilà, et, bah oui, Alphen, évidemment, n'était au courant de rien, mais bon, ça, d'un côté, il était au courant de rien, mais tout le monde a fait croire qu'il était au courant, évidemment, qu'une partie de l'argent lui était destinée. C'est-à-dire, Alphen, il a eu droit à peu près à tout. Bon, les magistrats, dans la période des affaires, là, ceux qui étaient teigneux, ils ont eu droit à un traitement de faveur. Ils ont été suivis, écoutés, menacés. On leur a monté des coups, etc. Tous, plus ou moins. Il y en a deux qui, à mon avis, ont eu le pompon, où on les a vraiment, on a vraiment cherché plus qu'à les contrôler, à les déstabiliser, à les détruire. C'est Alphen et Eva Joly. Alors, je sais qu'elle n'est pas très populaire, mais il faut dire les choses comme elles sont. Moi, j'ai assisté à l'époque à des réunions, des dîners, des amis comme ça qui étaient dans certains milieux. Mais c'est monstrueux ce qu'elle pouvait prendre. J'ai la collection pas complète, je suppose, des notes blanches qui lui étaient consacrées. Il y a un journaliste qu'on voit souvent à la télévision, d'ailleurs maintenant aussi, qui a fait un livre uniquement à partir de ces notes.
Dites simplement aux gens qu'est-ce que c'est qu'une note blanche. Une note blanche, note de service non signée.
Voilà. C'est un fait qui est rapporté par un policier, des renseignements généraux, sans indiquer l'origine.
Qui circule sans origine.
Voilà. Et ça date de l'après-guerre. Ça s'est mis au point à ce moment-là. Voilà, et donc...
Schuller, pas le dernier venu, quand même. C'était avec des gens, quand même, une fortune. Petit-fils de Rosenthal... des porcelaines Rosenthal, quand même, quelques moyens, quand même.
Oui, mais là, on est dans la politique, c'est l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine, c'est Balkany. Hein. Bon, et à l'époque, bon, il y avait des enjeux énormes, parce qu'il y avait Pasqua, on était encore dans une autre époque. Hein, il y avait une compétition politique pour le pouvoir qui était assez intense. Bon, là, et donc là, si vous voulez, c'était l'occasion de tomber, là. Faire tomber les Pascoyens. Parce qu'il y avait, faut se souvenir quand même d'une chose, c'est que entre 93 et 95, un certain nombre d'affaires qui vont prospérer, elles sont balancées du ministère du budget par Sarkozy lui-même. C'est des signalements, article 40, il a repéré un truc qui ne va pas, il transmet au parquet, le parquet nomme un juge d'instruction, l'instruction démarre, et vous avez 80% des affaires qui ont fait trembler, comme on dit, la République, qui démarre à ce moment-là. Parce que l'article 40, certains pensaient que ça viserait juste l'adversaire, mais très souvent, l'adversaire en l'occurrence, les Balladuro-Pascoyens, mais généralement, tout ça est entremêlé, ce qui fait que les mêmes officines, les pompes à fric, elles arrosaient tout le monde était compromis dedans, tout le monde allait racketter les mêmes. Donc, une fois que vous êtes dedans, c'est tout le monde, le PC, tout le monde était pris là-dedans. C'était finalement un truc... comme ça, un engrenage voilà, pervers auquel peut-être le ministre du budget de l'époque n'avait pas assez pensé. Voilà, le fait
qu'il l'a amorcé.
Alors, mais là, c'est vrai que la plupart des grosses affaires, on les doit à Sarkozy. Hein.
On va terminer juste en disant la bataille Sarkozy. Alors, vous avez un article qui dit « Le cabinet noir fait feu sur Sarkozy ». Parlez-nous de ça et comme il y a un développement qui est à venir, c'est le Karachiguet.
Oui, mais là, si
parce
vous voulez...
Parce que là,
ouais.
Le Karachiniyet, ça va être compliqué.
Mais là, c'est un peu, ouais, mais c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai pris ça sous un autre angle. Si vous voulez, là, vous connaissez tous l'affaire de Karachi, enfin les deux affaires de Karachi. Il y a l'attentat lui-même et puis il y a les fonds, les rétrocommissions. Bon. Bon, moi, si vous voulez, je suis parti d'autre chose et qui me paraît extrêmement curieux, sur lequel à peu près tout le monde fait l'impasse, y compris dans l'instruction d'ailleurs, c'est une série d'écoutes illégales qui ont été faites par manifestement des Chiraciens, enfin des Chiraciens, je ne dis pas que Chirac était au courant, mais enfin, c'était des gens qui dépendaient en tout cas de son entourage, sur la plupart des gens qui étaient mêlés à l'affaire actuelle du Karachiniyet, c'est-à-dire à tous les contrats d'armement de l'époque, c'est-à-dire Balladur, Bazir, Léotard, etc. Et donc là, vous avez pendant plus d'un an un mec qui a tous les éléments qui lui permettent de suivre à distance un certain nombre de personnages, d'intercepter leur communication téléphonique, tout ça pour le compte d'une officine chiracienne. Ce qui fait qu'il va intercepter les écoutes de Léotard, de Balladur, Donadieu de Vavre, etc. etc. C'est hallucinant que cette affaire... Le type, d'ailleurs, va finalement aller voir les responsables de la permanence de Balladur pour leur dire « il y a ça, je veux de l'argent ». Donc les gens ils vont pas insister. Ils vont refuser d'ailleurs d'aller plus loin. C'est comme ça qu'on sait, parce qu'il y a eu des notes qui sont dans le dossier d'instruction. Donc c'est comme ça qu'on sait que tout ça a eu lieu. Et puis le type va être retrouvé pendu chez lui un an et demi après. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas pendu tout seul. Mais je dis quand même, c'est quand même curieux, parce que là, on est dans une histoire extrêmement grave. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, après cette histoire d'écoute-là, si on peut se souvenir, ça se passe, les écoutes dont je vous parle, essentiellement, elles se passent de janvier à avril 95, avant les élections. Et une fois que Chirac est élu, à partir des mois d'été, vous avez une nouvelle série d'écoutes de la DGSE qui se met en place, où on va, curieusement... réécouter les mêmes. C'est-à-dire comme si, là je fais une hypothèse, on voulait substituer à des écoutes illégales, des écoutes, légal, entre guillemets, légales. En tout cas, c'est exactement les mêmes qu'on écoute. Ça, je l'ai écrit aussi, personne n'est venu contester tout ça, surtout ce rapprochement, qui est quand même sidérant. Donc c'est sous cet angle-là que j'ai abordé l'affaire de Karachi. Donc, c'est pas par rapport à l'autre affaire qui, elle, est toujours, à mon avis, qui est inachevée. Et voilà, où on retrouve, vous connaissez l'histoire comme moi.
Bien, je vais vous laisser conclure. C'est une conclusion temporaire, à mon avis, avec vous. Dites-nous encore ce que vous vouliez fondamentalement nous dire au travers de votre ouvrage.
Bon, d'abord, je voudrais dire que je n'ai rien contre Chirac lui-même en tant qu'individu, en tant que personne. Je ne fais pas une fixation sur un individu. Pour moi, il représente quelque chose d'anormal. Quelque chose qui ne va pas dans une République qui cherche à s'auréoler de tous les bienfaits, de toutes les grandes valeurs, la patrie de ceci, la patrie de cela. On voit que dans la patrie des droits de l'homme, on voit comment ça fonctionne. C'est assez effarant de voir ce degré d'impunité, de malfaisance, de rapacité, de détournement de biens publics. Donc lui, on pourrait faire... Il y a des livres qui ont été faits sur Mitterrand, où on peut le reprocher des choses aussi à tout le monde. C'est général. Chirac, bizarrement, il passe à travers les gouttes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les gens continuent de le prendre pour sa marionnette. Il y a peut-être quelque part un effet pervers chez l'image qu'il a, qui fait qu'au fond, c'est quelqu'un qui devrait sortir nos livres d'histoire tel qu'on veut l'y faire entrer. C'est que toute sa vie est quand même mêlée à des intrigues violentes, à des bassesses. Quand on voit la ville de Paris, ce détournement massif. J'ai fait un livre sur Delanoë. Évidemment, quand on fait un livre sur Delanoë, surtout à l'époque, c'était en 2008, je crois, l'idée, c'était on compare avant et honnêtement, si j'ose dire, il n'y a pas photo. Mais je dis, voilà, j'ai fait ce livre bon, pour montrer le côté malfaisant quand même de certains en politique. Mais c'est vrai qu'on peut pas, on n'est pas obligé de le limiter à Chirac. Mais je veux dire quand même que dans ce domaine-là, ils ont, me semble-t-il, une avance sur les autres. Mais c'est vrai que si on comparait avec le travail de la cellule de l'Élysée, de Mitterrand, les écoutes pour avoir... eu aussi accès à cette documentation-là, oui, il valait mieux être dans les petits papiers de l'Élysée que la, ça c'est vrai, hein, là j'avoue que dans le genre, d'ailleurs c'est le seul face auquel Chirac n'a pas eu le dernier mot finalement, parce que quand on regarde les cohabitations, parce que peut-être qu'il avait trouvé son maître hein, en la matière, je veux dire, parce que là on a un combat qui n'est pas un combat démocratique. C'est un livre bon, qui voulait informer, c'est un livre bon, qui gêne. Voilà, il n'y a à peu près que les sarkozistes qui l'ont trouvé plutôt sympa. Je ne suis pas sarkoziste, mais bon, je dois dire ça. Et par contre, il y a eu un réflexe chez les journalistes d'investigation SIC, qui est sidérant, parce que là, ils se sont sentis quelque part à la fois visés, menacés, etc. Parce qu'au fond, ce livre, c'est un livre qui leur est dédié, quoi.
Frédéric Charpier, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.